Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers. Par une soirée pluvieuse de 1938, un train traverse la campagne allemande. Il a quitté la capitale Vienne, en Autriche, quelques heures plus tôt. Il est passé par les gares de Linz et Ratisbonne, sans même s'arrêter. Tout le convoi, wagon et locomotive, est peint en noir. Un spectre inquiétant dans ce paysage grisâtre. À l'avant flottent deux drapeaux, celui du parti nazi et celui de la Wehrmacht, la force de défense du Troisième Reich. Après un dernier virage, le train s'immobilise dans la gare de Nuremberg, berceau du parti nazi. Sur les quais, il n'y a aucun voyageur en transit. Et pourtant, la gare grouille de monde. La grande majorité d'entre eux sont des soldats de la SS, la Schutzstaffel, la police politique du Reich. Avec discipline, les hommes s'alignent le long du train. Ils ont pour mission de transporter une partie de la cargaison au temple nazi, le site de la tribune Zeppelin, là où Hitler a prononcé ses premiers grands discours. Inspiré du temple de l'ancienne Grecque de Pergame, en Asie mineure, l'immense bâtiment se dresse au centre de la ville, dans le complexe du Dutzendteil. Guidés par deux officiers en uniforme, trois soldats ouvrent le wagon numéro 2 et commencent à décharger une série de caisses. Il doit y en avoir une douzaine. Dans les rangs, leur compagnon, toujours au garde-à-vous, murmure. On raconte que cette cargaison serait l'une des plus précieuses qui soit. Une cargaison plus prestigieuse que l'or. Certains prétendent qu'à Vienne, Reinhard Heydrich, le dauphin d'Hitler, aurait lui-même supervisé le chargement. Armes à la main, les soldats se déplacent et forment une haie de protection, pendant que d'autres se chargent d'embarquer les caisses sur un camion qui, une fois chargé, prend la direction de la tribune Zeppelin. À l'avant, une voiture arborant l'aigle nazi sur la portière assure l'itinéraire et, à l'arrière, un autre camion rempli de soldats armés assure la sécurité du convoi. Pour éviter tout incident, le transfert a été organisé dans le plus grand secret et en pleine nuit. Mais qui peut prévoir l'imprévisible? Arrivé au complexe de la Dutzendteil, les soldats se chargent de décharger les caisses sous l'œil attentif des officiers. Même s'ils ignorent tout de la nature de leur cargaison, les hommes travaillent en silence, comme s'ils savaient, d'instinct, que les objets gardés dans ces caisses avaient quelque chose de sacré. Les caisses sont amenées dans une chambre forte et la porte soigneusement refermée. Deux soldats sont laissés en sentinelle. Une heure passe, puis un nouveau brouhaha se fait entendre dans l'escalier menant à la chambre forte. En voyant arriver un petit groupe d'officiers, les sentinelles se mettent au garde-à-vous et les saluent d'un fort « Heil Hitler ». La porte blindée est rouverte et les officiers se glissent dans la pièce étroite. Au centre du groupe se tient un officier de haut rang, un dignitaire. Tout en repoussant ses lunettes rondes qui glissent sur l'arête de son nez, Il parcourt du regard les caisses empilées. D'un geste discret, il fait signe à un soldat qui les accompagne d'ouvrir l'une d'elles, une caisse très précise, longue et étroite. Armé d'un pied de biche, le soldat soulève soigneusement le couvercle. Il fait ensuite un pas de côté et laisse les officiers contempler son contenu. Le dignitaire à lunettes s'avance et plonge son regard dans la boîte. La tête penchée, il repousse encore ses lunettes qui glissent sur son nez. Il entre les mains dans la caisse et en tire une longue lame. On dirait la pointe d'une lance, une lance antique. La lame est ajourée et elle arbore en son centre une jaquette dorée portant l'inscription « Lance et clou du Seigneur ». L'officier la fait tourner dans ses mains, lentement, comme un objet de grande fragilité. Sans rien dire, il la replace dans la caisse, claque les talons et quitte la chambre forte. Alors que la horde monte l'escalier, les sentinelles referment la porte de la chambre forte et se replacent de part et d'autre. Pendant de longues secondes, il reste sans mot dire alors que les voix des visiteurs s'étouffent au fur et à mesure qu'ils s'éloignent. Le silence revenu, l'une des sentinelles laisse échapper un murmure. « C'était Himmler, » répète-t-il. « C'était Himmler. » Sa voix est un mélange d'admiration et de terreur. On lui a donné plusieurs noms. Sainte-Lance, Lance de Longinus, Lance de Saint-Maurice, Lance du Christ ou encore Lance du Destin. Même si les premiers textes à son sujet datent du Xe siècle, son histoire est un véritable roman fantastique où se mêlent le réel et la légende. À n'en croire la tradition chrétienne, le lancier qui a percé le flanc du Christ en croix s'appelait Longin ou Longinus. C'était un légionnaire romain attaché à la garde de Ponce Pilate. Rendu presque aveugle à cause de cataractes, il avait été rapatrié des champs de bataille pour servir dans la garde du procurateur de Judée. Très vite, on l'avait chargé de suivre les activités d'un certain Jésus, un agitateur public venu de Nazareth et qui se disait le Messie. On raconte qu'au moment de la Passion, Longinus refusa de briser les jambes de Jésus comme l'avait exigé Caïphe, le grand prêtre du Sanhédrin. De la pointe de sa lance, il se contenta de percer le crucifié entre la quatrième et la cinquième côte, une pratique acquise sur les champs de bataille pour s'assurer de la mort d'un adversaire. Aussitôt, il sortit du sang et de l'eau, raconte l'apôtre Jean. Selon la légende, à l'instant où le sang de Jésus coula sur la lance, le légionnaire retrouva complètement l'usage de la vue. Sa conversion fut immédiate. C'est ici que commence la légende de la lance de Longinus. On raconte qu'après la mort de Jésus, la lance, devenue un véritable talisman pour avoir été maculée du sang du Rédempteur, aurait acquis des propriétés surnaturelles. On disait qu'une armée précédée de la lance serait invincible. En revanche, si la précieuse relique en venait à être perdue, son propriétaire connaîtrait d'insurmontables défaites. On raconte que vers l'an 280, la lance aurait été amenée à Thèbes, l'actuelle ville de Karnak en Égypte, où elle aurait été remise à un fervent chrétien copte, Maurice, qui deviendra plus tard Saint-Maurice. Ce dévot était aussi le commandant d'une milice romaine, la Légion Thébaine. En campagne, les légionnaires se seraient retrouvés à Aganum, dans le nord de l'Italie. La population y était composée presque essentiellement de chrétiens qui s'opposaient farouchement à l'empereur. L'ordre a été donné de les trucider, mais Maurice, lui-même un fidèle chrétien, refusa d'exécuter le mandat. Un bras de fer se serait engagé entre le légionnaire et l'empereur. Maximien demanda à Maurice d'abjurer sa foi chrétienne au profit du paganisme romain. Le légionnaire refusa, et avec lui, tous ses hommes, 6600 soldats. Insultés, l'empereur les aurait tous fait assassiner, du premier au dernier. On prétend que Saint Maurice aurait rendu son dernier soupir en étreignant la lance. En 312, sous les murs de Rome, l'empereur Constantin Ier, dit le Grand, livre bataille contre Marcus Maxence, son principal rival. La victoire de Constantin donne aux chrétiens le statut de religion officielle. Ils fondent par la suite une nouvelle Rome, Constantinople, aujourd'hui Istanbul en Turquie. La légende veut que, durant toutes ces conquêtes, l'empereur gardait sur lui la lance de Longinus, garante de ses victoires. C'est durant cette période que l'arme aurait été ajourée pour y placer un clou de la crucifixion, une relique ramenée de Jérusalem par nul autre que Sainte Hélène, la mère de Constantin. En 732, poursuit la légende, la lance se retrouve entre les mains de la milice française. Cette année-là, le général Charles Martel mène son armée à la victoire sur les Arabes à Poitiers, en France. Une défaite aurait signifié l'imposition de l'islam sur toutes les nations d'Europe de l'Ouest. 70 ans plus tard, on raconte que la lance aurait été acquise par Charlemagne, le roi des Francs. En possession de la relique, il est couronné empereur par le pape. Il établit son empire au cours de 47 campagnes victorieuses et veille au développement du christianisme partout en Occident. Hélas, lors de son dernier retour à Aix-la-Chapelle, en Allemagne, la capitale de son empire, Charlemagne échappe la lance qui tombe dans la boue. Plusieurs voient dans cet incident un mauvais présage. Dans les mois qui suivent, l'état de santé de l'empereur se détériore rapidement. Charlemagne s'éteint le 28 janvier 814. Vers l'an 1000, la Sainte Lance est transférée à la cathédrale de Magdebourg, en Allemagne. À partir de ce moment-là, elle n'est plus seulement une relique, mais elle fait désormais partie du trésor du Saint-Empire romain. Elle ne quittera plus cette précieuse collection. Au 11e siècle, l'empereur Conrad fait confectionner un reliquaire en or, en forme de croix, pour y loger la lance et un morceau de la vraie croix. Quelques décennies plus tard, le nouvel empereur, Henri IV, fait placer sur la lance une feuille d'argent, identifiant la relique comme la lance de Saint Maurice et un clou de la Passion. Deux siècles plus tard, Charles IV fait recouvrir cette feuille d'argent par une nouvelle jaquette, celle-là en or et portant seulement l'inscription « Lance et clou du Seigneur ». Exit Saint Maurice. À partir de 1424, la lance, et avec elle tout le trésor du Saint-Empire romain germanique, est transférée à Nuremberg par ordre de l'empereur Sigismund, qui déclare alors que c'est la volonté de Dieu que la couronne, le globe, le sceptre, la croix, l'épée et la lance du Saint-Empire romain ne quittent jamais le sol de la patrie. Au début de la Renaissance, la ville de Nuremberg traverse son âge d'or. Outre les pèlerins qui viennent de partout pour contempler les reliques exhibées à l'église du Saint-Esprit, la ville devient une véritable cité des arts. Mais cette quiétude est bientôt menacée. En 1789, la Révolution éclate en France. Dans le tumulte, le conflit déborde les frontières de l'Hexagone. À Nuremberg, on craint pour la sécurité des trésors de l'Empire. Le Conseil décide de mettre les reliques à l'abri. D'abord à Ratisbonne, puis à Vienne, où elles arrivent en 1800. Mais le monde change. Et en cette période charnière de l'Europe, les alliances et les empires se forment et se défont. L'ombre des guillotines n'est jamais bien loin. En 1806, le Saint-Empire romain germanique est dissous. L'empereur d'alors, François II, de la puissante dynastie autrichienne des Habsbourg, devient François Ier, empereur d'Autriche. Avec ce remodelage de l'échiquier politique, le nouvel empereur ne se sent nulle obligation d'honorer les accords signés sous l'Ancien Régime, incluant le prêt temporaire du trésor du Saint-Empire. La ville de Nuremberg a beau rappeler ce souhait de Sigismund qui disait que le trésor du Saint-Empire romain ne devait jamais quitter le sol de la patrie, François Ier, lui, ne l'entend pas de cette oreille. Le trésor est à Vienne et il y restera. François Ier est loin de s'imaginer alors que 127 ans plus tard, un jeune Autrichien de Brenau va lui aussi changer l'histoire de l'Europe. Et la lance du destin fera partie de ses desseins. Un jeune Autrichien du nom d'Adolf Hitler. En 1938, donc, le Führer ordonne que les trésors du palais de la Hofburg soient transférés en Allemagne. La précieuse cargaison est embarquée sur un train blindé à destination de Nuremberg, cette ville qui a vu naître le parti nazi. On raconte que la lance aurait ensuite été utilisée lors de cérémonies secrètes auxquelles participaient de hauts dignitaires nazis, en particulier Heinrich Himmler et Rudolf Hess. Ces cérémonies se seraient tenues à Berlin, à Munich, mais surtout à Wewelsburg, le château d'Himmler dans les montagnes de la Rhénanie du Nord, dans l'ouest de l'Allemagne. L'endroit, à n'en croire certaines rumeurs, était le quartier général des SS et un véritable monument dédié aux visions occultes du Troisième Reich. Le 30 avril 1945, la chute du Troisième Reich est acquise. L'armée allemande est en pleine débandade. Les hauts dignitaires du parti nazi, eux qui ont fait trembler le monde, se rendent les uns après les autres. Les fauves d'hier ne sont plus à présent que des tigres de papier. À Berlin, les derniers résistants se résument à une poignée d'adolescents fanatisés par un régime qui les a trompés et endoctrinés. De leur côté, les services de renseignements américains poursuivent leur interrogatoire parmi les anciens SS. Ce jour-là, les Monumentmen de l'armée américaine, un groupe chargé spécialement de retracer les œuvres d'art dérobées par les nazis, apprennent que le trésor du Saint-Empire romain germanique a été transféré un mois plus tôt dans un ancien cellier de Nuremberg. Le jour même, dans son bunker à Berlin, Adolf Hitler se tire une balle dans la tête. Le 7 août 1945, trois mois après le suicide du Führer, le lieutenant Walter Horn des Monumentmen entre dans l'Artbunker de Nuremberg et récupère la Sainte Lance. Elle est retournée à Vienne, où elle est encore aujourd'hui exhibée au milieu des autres richesses du trésor du Saint-Empire romain germanique. Une relique devenue un symbole d'ombre et de lumière. La Sainte Lance. Dossier 1938-1010. Je me nomme Christian Page. Je suis journaliste et je m'intéresse aux phénomènes étranges et inexpliqués depuis près de 50 ans. Bienvenue dans mon univers.
Ne manquez pas le balado Relève-toi, présenté par le Regroupement des centres de prévention du suicide du Québec.
Dans l'épisode de cette semaine, Patrick Marsolais reçoit l'ex-patineuse de vitesse et médaillée olympique, Marianne Saint-Gelais.
Mes médailles, je me disais, ils m'apportent absolument rien. J'ai pas plus de vie, j'ai pas plus d'amoureux, j'ai pas plus de famille, j'ai pas plus de scolarité, j'ai absolument rien.
Comment ça va? Nous sommes toujours là, 24/7, partout au Québec. Appelle-nous au 1-866-APPEL. Ensemble, tissons l'espoir.
C'est 23.
Je suis Christian Page. Je suis journaliste. Bienvenue dans mon univers. Depuis les 60 dernières années, on a vu se multiplier une foule d'ouvrages traitant des soi-disant origines occultes du parti nazi. Hitler and the Occult, Les racines occultistes du nazisme, The Invisible Eagle, The Nazi and the Occult et Le nazisme revisité, pour n'en nommer que quelques-uns. Trois de ces ouvrages, The Spear of Destiny, The Mark of the Beast et Secrets of the Holy Lands, se consacrent essentiellement au rôle qu'aurait joué la Sainte Lance dans l'histoire du Troisième Reich. On raconte qu'en 1938, au moment d'annexer l'Autriche aux puissances du Reich, Hitler rêvait déjà de s'emparer de la Sainte Lance. 30 ans plus tôt, alors qu'il était encore étudiant à Vienne, il aurait vu la lance lors d'une visite au palais Hofburg et caressait depuis le désir de s'en emparer. Peu après cette annexion, donc, le Führer ordonne que les trésors du palais Hofburg soient transférés à Nuremberg. La précieuse cargaison est embarquée sur un train blindé à destination de l'église Sainte-Catherine, où une chambre forte souterraine a spécialement été aménagée. On raconte que la lance aurait ensuite été utilisée lors de cérémonies secrètes auxquelles participaient de hauts dignitaires nazis, en particulier Heinrich Himmler et Rudolf Hess. Il faut savoir que, déjà à la fin du 19e siècle, l'Europe était un terreau fertile aux idées nouvelles et aux philosophies mystiques et ésotériques. L'Allemagne ne faisait pas exception et son histoire est éloquente. En 1884, Elena Petrovna Blavatsky, une aventurière russe qui se prétend en contact avec des guides célestes, fonde la Société théosophique allemande, un groupe plus ou moins ésotérique, inspiré par ses révélations. Blavatsky soutient que l'humanité a connu plusieurs renouveaux spirituels initiés par des races mères. Dans ses ouvrages, mélange indigeste de philosophies orientales revues et corrigées par la Kabbale, elle annonce l'avènement imminent d'une nouvelle race mère, à savoir les Aryens, une race suprême qui descendrait directement des Atlantes. Ce concept de race suprême est vite récupéré par des partisans d'extrême gauche pour qui l'idée est plutôt séduisante. En 1886, un certain Eugen Schleiden publie Das Sphinx, un premier mensuel qui s'adresse à une certaine élite intellectuelle et qui traite de spiritisme, de recherches parapsychologiques et de phénomènes paranormaux. À l'occasion, le périodique se fait aussi l'écho des enseignements de Madame Blavatsky sur la race aryenne. 20 ans plus tard, Guido von Liszt, un intellectuel allemand, écrit toute une série de mémoires sur la civilisation ario-germanique. Si avec Madame Blavatsky, les Aryens étaient vaguement décrits comme un peuple d'Ukraine parlant une langue indo-européenne, sous la plume de Guido von Liszt, ces mêmes Aryens deviennent ouvertement un peuple nordique, même germanique. Guido von Liszt fait reposer son étude sur son interprétation plutôt tordue de certains noms de lieux et d'armoiries. Un décodage mystique au cœur duquel on retrouve les runes, cet ancien alphabet germanique. À la même époque, circule sous le manteau un ouvrage controversé, Les protocoles des sages de Sion. On raconte que ce document est le détail d'un plan ourdi par une haute confrérie juive pour anéantir la chrétienté et dominer le monde. On sait aujourd'hui que ce pamphlet est un faux, créé vers 1897 par l'Okhrana, la police politique russe de Nicolas II, pour justifier à l'époque les politiques antisémites du tsar. Mais peu importe ce détail. Vers 1910, les protocoles circulent allègrement parmi les militants d'un certain prolétariat allemand. Le cocktail est de plus en plus explosif. Ajoutez à cela les philosophies mystico-ésotériques de Madame Blavatsky et de Guido von Liszt, et la table est mise pour l'éclosion d'un parti nationaliste ouvertement antisémite et partisan de l'eugénisme. Dans la foulée, on voit apparaître des sociétés secrètes qui se dédient à l'étude ethnologique des peuples germaniques. On y prêche ouvertement l'antisémitisme, l'antirépublicanisme, le paganisme et le racisme. C'est le cas de la société Thulé et de la nébuleuse et incertaine confrérie du Vril. Inspiré de ces nouvelles idéologies, un membre de la société Thulé, Dietrich Eckart, fonde le Parti travailliste, vite rebaptisé le Parti travailliste du national-socialisme allemand, le Parti nazi pour faire simple. Eckart, qui publie également à la même époque un périodique antisémite, Aufgottdeutsch, est bientôt rejoint par de nouveaux militants qui le perçoivent comme un mentor. Parmi ses fans se trouve Adolf Hitler. Lorsque Hitler prend le pouvoir en 1933, il est déjà entouré de militants qui, depuis des années, baignent dans cette culture à la fois ésotérique et antisémite. Plusieurs d'entre eux, comme Hitler d'ailleurs, ont été membres de groupes occultes, à commencer par Heinrich Himmler, qui, de surcroît, se prétend la réincarnation d'un chevalier teutonique, un ordre militaire chrétien du Moyen Âge. C'est Himmler qui, 2 ans plus tard, fonde l'Ananerb, qu'on pourrait traduire par la Société de l'héritage ancestral, une pseudo-organisation archéologique dont le but ultime est de démontrer que les Allemands sont bel et bien cette race mère héritière des Atlantes, annoncée par Madame Blavatsky. Sous les offices de l'Ananerb, Himmler envoie des groupes de chercheurs un peu partout à travers le monde pour recueillir des preuves de ce noble héritage. Vu sous cet angle, on comprend que certains hauts dirigeants nazis ont pu être excités à l'idée de posséder la Sainte Lance, un souhait qui, dès l'automne 1938, devient réalité. À n'en croire la littérature sur cette filiation entre l'occulte et le Troisième Reich, on prétend aussi que Hitler se serait suicidé dans son bunker à Berlin le jour même où les troupes alliées auraient découvert la Sainte Lance cachée à Nuremberg. Étrange coïncidence, si tout cela est vrai, bien sûr. Et c'est justement ce que j'ai voulu savoir. L'occulte a-t-il réellement joué un rôle de premier plan dans l'éclosion et l'ascension du nazisme? Hitler était-il un zélé de magie noire et d'ésotérisme, comme certains l'ont écrit? L'ordre des SS, dirigé par Heinrich Himmler, était-il composé d'une poignée d'occultistes? Et la Sainte Lance dans tout cela? A-t-elle réellement été utilisée lors de rituels secrets au château de Wewelsburg? Certains ont même prétendu que la relique retournée à Vienne après le conflit n'était pas l'original dérobé en 1938, mais une habile copie réalisée à la demande d'Himmler en personne. L'original aurait plutôt été envoyé dans une mystérieuse base allemande située sous les glaces de l'Antarctique. Est-ce possible? Près du château de Nuremberg, derrière 2 grands battants de fer presque anonymes, s'ouvre le Hartbunker, un ancien cellier qui, durant la Deuxième Guerre mondiale, a été transformé en chambre forte pour y conserver les trésors de la ville. C'est là, en 2008, que j'ai rencontré Sally Slenska, une historienne de Nuremberg, qui m'a offert une visite guidée. Lorsqu'il est question du régime nazi, les historiens parlent souvent des trésors dérobés par le Troisième Reich. On oublie que l'Allemagne aussi avait son lot de trésors inestimables, des peintures et des sculptures de grands maîtres, sans compter ses collections de livres et de manuscrits anciens. Lorsque les bombes ont commencé à pleuvoir sur l'Allemagne, les dirigeants ont vite compris l'urgence de mettre à l'abri tous ces trésors. À Nuremberg, comme le commerce de la bière y avait jadis fleuri, la ville comptait déjà de nombreux celliers, de vastes espaces souterrains à l'abri des bombardements. Des ingénieurs ont donc été chargés de transformer ces celliers en entrepôts. Pour ce faire, Ils ont réaménagé les lieux, ils ont isolé les murs et imaginé des systèmes capables de maintenir une température et un taux d'humidité constant. Des décennies après le conflit, l'endroit témoigne encore de l'ingéniosité des systèmes. C'est dans l'une de ces chambres qu'était conservée la Sainte Lance, et avec elle, tout le trésor du Saint-Empire romain germanique. Parce qu'elle est là, la nuance, et elle est importante. Toute l'histoire de cet occultisme nazi s'est construite sur des demi-vérités et des interprétations vaseuses. Que Hitler ait côtoyé des occultistes comme Eckhart est indéniable. Que Hitler ait fait sienne certaines croyances ésotériques ou qu'il ait partagé ce sentiment antisémite entretenu par des pamphlets comme les protocoles des sages de Sion est également certain. En revanche, croire que les politiques du Reich ont été fortement influencées par un grand dessein occulte orchestré par une confrérie ésotérique, il y a loin de la coupe aux lèvres. S'il est vrai que Hitler a récupéré certains symboles mystiques comme la svastika, la croix gammée, ou qu'il a émaillé ses discours de références ésotériques, ce n'était que pour des raisons nationalistes. Une stratégie savamment mise en place par son ministre de la propagande, Joseph Goebbels. Évoquer les chevaliers teutoniques, par exemple, faisait vibrer une corde sensible chez les Allemands. Si une référence aux frères Grimm avait eu le même effet, Hitler aurait sans doute ajusté son discours pour parler de Blanche-Neige et des sept nains. Cela dit, il est clair que certains hauts dirigeants nazis, comme Heinrich Himmler, étaient eux de véritables passionnés d'occultisme. De là à prétendre que leurs lubies personnelles ont influencé la marche du Reich, cela reste très incertain. L'histoire de la lance en est un bel exemple. Si le trésor du Saint-Empire romain germanique, dont fait partie la Sainte Lance, a été transféré de Vienne à Nuremberg, cela n'a rien à voir avec l'occulte.
Ne manquez pas le balado « Relève-toi », présenté par le Regroupement des centres de prévention du suicide du Québec.
Dans l'épisode de cette semaine, Patrick Marsolais reçoit l'ex-patineuse de vitesse et médaillée olympique, Marianne Saint-Gelais.
Mes médailles, là, je me disais, ils m'apportent absolument rien. J'ai pas plus de vie, j'ai pas plus d'amoureux, j'ai pas plus de famille, j'ai pas plus de scolarité, j'ai absolument rien.
Comment ça va? Nous sommes toujours là, 24/7, partout au Québec. Appelle-nous. Au 1-866-APPEL. Ensemble, tissons l'espoir.
C'est 23.
Je suis Christian Page. Bienvenue dans mon univers. Il faut se rappeler que pendant des siècles, ces reliques ont été conservées à Nuremberg. Au 15e siècle, lorsqu'elles ont été confiées à la ville, l'empereur Sigismund n'avait-il pas d'ailleurs déclaré qu'il en allait de la volonté de Dieu, que la couronne, le globe, le sceptre, la croix, l'épée et la lance du Saint-Empire romain ne quittent jamais le sol de la patrie? Malheureusement, pour des raisons de sécurité, ces trésors, faut-il le rappeler, ont été envoyés à Vienne lors de la Révolution française et ne sont jamais revenus. Beaucoup d'Allemands considéraient avoir été floués dans cette histoire. En ramenant ses trésors à Nuremberg, Hitler n'a fait que réparer ce qui, aux yeux de millions de ses compatriotes, était une injustice, sinon un vol. La Sainte Lance et ses soi-disant pouvoirs mystérieux n'ont rien à voir dans cette décision. D'ailleurs, lorsque les trésors ont été de nouveau à Nuremberg, les autorités ont organisé une grande exposition pour fêter ce retour. Comme en font foi les photographies prises lors de l'événement, les trésors du Saint-Empire romain germanique ont été présentés sans qu'aucune emphase ne soit mise sur la dite Sainte Lance. Il est indéniable qu'une grande partie de cette aura d'occultisme qui nimbe les forces du Troisième Reich découle d'une invention littéraire. Dans les années 1950, quelques auteurs ont tenté, avec plus ou moins de succès, de tisser des liens entre l'occulte, Hitler et les SS. Mais rien de très concret. Puis, en 1960, est paru en France « Le matin des magiciens », un ouvrage culte signé Louis Powell et Jacques Bergier. Les auteurs y reprenaient les ébauches déjà publiées par d'autres occultistes, ébauches qu'ils ont fondues dans un texte plus clair et surtout décrit dans un style plus populaire. Le mythe de Hitler et de l'occulte était né. En 1973, s'inspirant de Bergier et Powells, un auteur britannique, Trevor Ravenscroft, a parachevé le mythe en publiant « The Spear of Destiny ». 20 ans plus tard, ces nazis férus d'occultisme s'incarnaient enfin au cinéma sous les traits d'une poignée de vilains talonnant l'infatigable Indiana Jones à la recherche de l'Arche d'Alliance, du Saint Graal et du mécanisme d'Anticitère. Dans le cinquième volet de la saga, Indiana Jones et le cadran de la destinée, la Sainte Lance fait même l'objet d'un court prologue. Le mythe est consommé. Mais comme le dit l'expression, il n'y a pas de fumée sans feu. Et dans le régime hitlérien, ce feu s'appelle Heinrich Himmler. De Nuremberg, j'ai gagné les collines de la Rhénanie du Nord, site du mystérieux château de Wewelsburg. À n'en croire des auteurs comme Ravenscroft, c'est dans les salles souterraines de ce château triangulaire que Himmler aurait présidé à moult cérémonies occultes, en compagnie de hauts dirigeants SS. Même la Sainte Lance, dit-on, y aurait été amenée pour être utilisée lors de ces cérémonies. Le château se dresse au sommet d'une falaise de calcaire et domine la vallée de l'Alme. Il a été construit entre 1603 et 1609 afin de servir de résidence secondaire aux princes-évêques du district de Paderborn. C'est en 1934 que les SS, commandés par Heinrich Himmler, louent, pour la somme symbolique de 1 Reichsmark par an, le château, avec pour objectif d'en faire un centre de formation pour les SS. Himmler compte y enseigner l'idéologie nazie et voir à l'entraînement des soldats SS d'élite. Vers 1940, l'orientation mystico-politique du château est abandonnée. Himmler, le maître de Wewelsburg, envisage alors une nouvelle vocation pour le château. Il imagine un immense complexe destiné à devenir un nouveau Reichstag, le centre du monde. Le projet est si ambitieux qu'il prévoit ni plus ni moins l'engloutissement complet du village voisin de Wewelsburg. De nouveaux travaux sont entrepris à la tour ronde. Himmler fait même aménager à proximité un camp de concentration où il puise la main-d'œuvre nécessaire au chantier. En 1943, l'effort de guerre nécessitant toutes les ressources du Reich, les travaux à Wewelsburg sont abandonnés. Ils ne seront jamais complétés. Les prisonniers du camp sont bientôt transférés à Buchenwald, l'un des plus tristement célèbres camps de la mort. Quelques jours avant que les Alliés ne marchent sur Wewelsburg, un commando d'élite des SS fait exploser le château à la dynamite, ne laissant à peu près que les murs. Aujourd'hui, Wewelsburg abrite une auberge de jeunesse. Il est aussi un musée rappelant les années SS du château. En compagnie de Kirsten Johnstocker, l'une des responsables, j'ai pu visiter ce légendaire château. En s'appuyant sur des films d'archives, des photographies et des plans originaux, le château a entièrement été restauré. Tant que faire se peut, les administrateurs ont essayé de lui redonner le même aspect qu'il avait à l'époque de son occupation par les SS. En visitant Wewelsburg, il suffit d'être le moindrement attentif pour reconnaître cette symbolique occulte si chère à Himmler. Dans la bibliothèque, par exemple, on peut voir dans l'agencement des mosaïques du plancher des caractères uniques, caractères abondamment récupérés dans la symbolique SS. Dans une autre salle, on peut voir sur le plancher une sorte de rosace où s'entremêlent, là encore, des caractères et une stylistique runique, une figure que les occultistes ont baptisée « le soleil noir ». Il ne fait aucun doute que Heinrich Himmler était fasciné par toute cette dynamique occulte. Quant à savoir à quel point cet intérêt a pu influencer les politiques du Reich, difficile à dire. La plupart des historiens croient néanmoins qu'en dehors de l'idéologie raciste du nazisme et de l'esthétisme de certains symboles décoratifs des SS, cette influence occulte a été minimale. Rien ne prouve non plus que Wewelsburg ait été le théâtre de cérémonies secrètes. Qui plus est, plusieurs des pièces où ces initiations auraient été célébrées étaient encore, du temps de Himmler, en construction. Difficile d'imaginer des SS en costume d'apparat, officiant au milieu des gravats. Bien sûr, ce n'est pas impossible, mais c'est très improbable. Enfin, il est tout à fait exclu que la Sainte-Lance ait été amenée à Wewelsburg à l'insu des responsables des collections de Nuremberg. Or, il n'existe aucun document en ce sens. À moins de preuves convaincantes, les cérémonies à Wewelsburg avec la Sainte-Lance relèvent du mythe pur et simple. Après cette incursion dans l'univers occulte du Troisième Reich, il me restait encore à répondre à une dernière question. La Sainte-Lance de Vienne est-elle, oui ou non, la lance de Longinus? A-t-elle été utilisée pour percer le flanc du Christ en croix? J'ai repris la route de Vienne. Derrière sa vitrine du musée Hofburg, il est difficile d'apprécier la complexité de la Sainte-Lance. La relique fait environ 45 cm de long pour 6 cm dans sa partie la plus large. La base est constituée de deux ailerons placés de part et d'autre de l'embout. Le centre de la lame est ajouré et dans cet espace, on a inséré une aiguille stylisée qui, à n'en croire la légende, serait un clou de la crucifixion. Cette aiguille est solidement maintenue en place par des fils métalliques rattachés au corps principal de la lance. Plus bas, juste au-dessus des ailerons, deux ailes ont été ajoutées. Ces pièces redéfinissent la forme générale de la lance et, comme l'aiguille, elles sont rattachées à la lame par des fils métalliques. Enfin, au milieu de la lance, l'empereur Henri IV a fait placer une espèce de bague argentée sur laquelle on peut lire « Lance de Saint-Maurice » et « Clou de la Passion ». Cette bague n'est toutefois plus visible, ayant été recouverte en 1350 par une nouvelle jaquette en or, portant simplement l'inscription « Lance et Clou du Seigneur ». Dernier détail intéressant. À un moment donné, la lance s'est brisée et les deux morceaux sont aujourd'hui maintenus en place par les bagues superposées. En 2003, le professeur Franz Kirchweger, le curateur du Trésor du Saint-Empire romain germanique, a supervisé un important projet de restauration de la lance. Pour l'occasion, la relique a été sortie de son présentoir et transférée dans un laboratoire de Vienne. Avec minutie, la lame a entièrement été démontée et nettoyée. De nouvelles photographies des diverses composantes ont été prises et la lame a été étudiée au rayon X. Ces travaux, les plus importants jamais réalisés sur la relique, se sont déroulés sur plusieurs semaines et nous ont permis d'en savoir un peu plus sur la Sainte-Lance. La matière non organique étant impossible à dater par la technique du carbone 14, il est donc difficile d'évaluer avec précision l'âge du métal de la Sainte-Lance. Nous savons toutefois que la lame, par sa forme générale, est beaucoup plus proche des lances utilisées dans le Haut Moyen Âge, entre l'an 500 et 800, que de celles employées par les légionnaires romains de Judée. Nous savons aussi, et ce grâce aux récentes analyses, que le métal de la lame et celui de l'aiguille, le soi-disant clou de la passion, est tout à fait identique. L'aiguille n'est donc pas un apport, comme on le croyait, mais un simple élément décoratif. Il est possible que l'un des tout premiers propriétaires de la lance ait décidé de retirer du centre de la lame une longue portion de métal qu'il a stylisée avant de la remettre en place. Il est aussi possible que la lance ait été fabriquée de cette manière. Toutes les illustrations et descriptions de la relique qui nous sont parvenues évoquent sans exception cette lame ajourée avec son aiguille. Enfin, aucune matière organique n'a été trouvée sur la Sainte Lance. Elle n'a probablement jamais été utilisée comme arme. Il est clair aussi que la lance n'est pas une copie, comme certains occultistes l'ont laissé sous-entendre, mais une authentique relique vieille d'au moins 1000 ans, sinon plus. Mais alors, d'où vient-elle? Comment expliquer cette fascination dont elle a fait l'objet depuis des siècles? De Vienne, je me suis rendu à Saint-Germain-en-Laye, au nord-ouest de Paris. Dans le musée d'archéologie nationale, qui occupe le grand château de la ville, se trouve l'une des plus importantes collections d'armes du Moyen Âge. La conservatrice de l'époque, Madame François Vallée, a bien voulu me montrer le type de lance utilisée à cette époque. Si la Sainte Lance de Vienne remonte au Moyen Âge, elle ne doit certainement pas être un exemple unique. Dès les 4e et 5e siècles, on voit en effet apparaître des lances à ailerons qui caractérisent la Sainte Lance. Les pointes sont cependant beaucoup plus effilées, même s'il n'existe pas de règles formelles quant à la forme, la longueur ou la largeur de la lame. Toutefois, au détour d'une vitrine montrant des armes plus tardives, des armes du 7e et du 8e siècle, je me suis retrouvé face à face avec la jumelle de la Sainte Lance, sans bien sûr ses éléments décoratifs. Il s'agissait d'une lance de l'époque mérovingienne, une période comprise entre le 5e et le 8e siècle. De toute évidence, c'est à cette époque que la Sainte Lance a dû être fabriquée. Et, comme le veut la légende, elle a peut-être appartenu à Charlemagne. Il est toutefois exclu qu'elle ait été la lance du légionnaire Longinus ou même celle de Saint-Maurice. Mais alors pourquoi? Pourquoi cette lance est-elle devenue aussi légendaire? Il est possible qu'au tout début de son histoire, la lance de Vienne ait été mise en contact avec une autre lance que l'on pensait être celle de Longinus. Or, comme à cette époque on croyait au transfert des reliques, notre lance mérovingienne serait devenue, par contact, la Sainte Lance. C'est possible. Pourquoi pas? Il s'agit peut-être aussi d'une volonté populaire, un désir pieux. Je possède dans ma collection privée une authentique lance romaine du 1er siècle. Une lance comme celle utilisée sans doute par Longinus pour percer le flanc du Christ. Il s'agit d'un tout petit artefact d'à peine 10 cm de long. Aurait-on vraiment voulu d'une relique aussi insignifiante pour se remémorer la mort du Christ? Certainement pas. Par définition, la Sainte Lance devait être un objet fantastique, un artefact qui enflammerait l'imaginaire, qui en mettrait plein la vue. Je me suis alors rappelé l'une des scènes finales du film Indiana Jones et la dernière croisade, où Galahad, l'un des chevaliers de la Table Ronde, demande à Jones de choisir parmi une myriade de coupes laquelle est le véritable Saint Graal. Alors que le spectateur anticipe déjà une magnifique coupe en or, celle du roi des rois, Jones choisit une petite coupe en argile, insignifiante. La coupe d'un charpentier. Un choix judicieux. Je me suis alors surpris à imaginer un chevalier croisé guerroyant sous les murs de Jérusalem pour reprendre aux infidèles le Saint-Sépulcre. Un chevalier qui aurait peut-être lui aussi, à l'instar d'Indiana Jones, été confronté à un pareil choix. Choisir la Sainte Lance, une relique destinée à devenir l'un des plus puissants symboles du christianisme, l'emblème du Saint-Empire romain d'Occident. Mais laquelle choisir? Ce petit bout de métal triangulaire et insignifiant ou cette magnifique pièce d'orfèvrerie aujourd'hui exposée à Vienne? Et vous, laquelle auriez-vous choisi? Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.